C'est une grande joie, la joie de nous retrouver autour de la croix pour rendre grâce d'abord. Le Saint-Nom de Jésus, je vais l'inclure dans ce thème que j'ai préparé pour vous sur la miséricorde. Un témoignage, parce que cet été, je suis allé avec les jeunes de mon diocèse de Créteil et de ma paroisse à Cracovie, la ville de la miséricorde, la ville de la sœur Faustine et du Saint-Père, Pape Jean-Paul II. Comme vous, comme le témoignage que j'ai entendu tout à l'heure, j'ai fait aussi moi l'expérience de la grâce et de la miséricorde de Dieu. Ce week-end, c'est la fin de l'année liturgique dans nos paroisses. Nous fêtons Christ roi de l'univers. Nous allons le contempler dans sa royauté. Lui qui n'est plus sur la croix, mais aujourd'hui sur la croix, il accorde son pardon, il accorde sa miséricorde au larron qui était là à côté de lui. Et j'ai pris comme thème la cinquième béatitude, parce que Jésus-Christ se présente, il donne son portrait à travers ce beau texte de Matthieu 5, le verset 1 à 12, les béatitudes. Et la cinquième béatitude parle de la miséricorde. Heureux le cœur miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Je vais décliner ce thème en trois points, et chaque fois selon l'inspiration ou selon ce que je sentirai dans l'assemblée, je prierai pour vous. Je confierai au Seigneur nos blessures, je confierai au Seigneur nos joies aussi, mais je vous confierai vous au Seigneur, parce que vous avez des combats, nous l'avons entendu, et lui, il prend soin de nous, il fait de nos combats ses combats, il fait de nos victoires ses victoires. Amen. Le premier point que je vais développer, c'est d'abord la miséricorde de Dieu. Quand on parle de la miséricorde, on se réfère d'abord et avant tout à Dieu qui est le Père de toute miséricorde. Mais pour comprendre la miséricorde de Dieu, peut-être il faut définir ce que c'est la miséricorde. Alors, je suis allé regarder dans les dictionnaires. Le mot qui vient du latin miséri, cor, miséri signifie le pauvre et cor, le cœur. Donc la miséricorde, c'est le cœur vers les pauvres, c'est le cœur qui se penche vers les pauvres. Et saint Thomas d'Aquin, vous voyez, ce grand théologien catholique, a écrit un grand livre qu'on appelle la Somme théologique. Je l'ai étudié dans ma formation. Et dans la Somme théologique, saint Thomas d'Aquin dit que la miséricorde n'est rien autre qu'un cœur qui est rendu misérable en contact de la misère d'autrui. Si telle est l'idée de la miséricorde que nous nous faisons, et si Dieu est la source de toute miséricorde, peut-être nous allons nous arrêter d'abord sur ce que lui nous révèle de sa miséricorde. L'humanité de Dieu est une humanité miséricordieuse. Sa divinité se manifeste dans la miséricorde. C'est Dieu qui s'est incarné. C'est Dieu qui est venu habiter parmi nous. C'est Dieu qui a pris chair dans notre vie. Il se présente dans les cités et les villes qu'il parcourait comme un Dieu bon, un Dieu qui ne condamne pas, un Dieu qui ne juge pas. Un petit parcours rapide dans la Bible, pour voir ce que lui-même, Dieu, nous révèle de la miséricorde. Voyez-vous, mes frères et sœurs, cette année de miséricorde, nous l'avons vécue en posant des gestes concrets, en vivant peut-être la réconciliation dans nos paroisses, parce que nous avons compris que la miséricorde n'est pas une faiblesse de Dieu, mais c'est son propre et son qualificatif. La miséricorde et sa toute puissance, nous venons de les chanter, qui consiste en quoi? À prendre sur lui nos misères, à prendre sur lui nos difficultés, à prendre sur lui nos faiblesses, nos combats, pour nous communiquer sa force, pour nous communiquer son pardon, pour nous communiquer sa compassion. Et dans la vie courante, vous voyez, souvent, quand on parle de miséricorde, on a l'idée de la compassion, on a l'idée de la bienveillance, on a l'idée de la patience. tout cela, Dieu l'est. Mais il me semble qu'au-delà de cela, si Dieu nous communique sa grâce, c'est parce que dans son être même, dans son essence, comme on dit, il veut nous sauver. Il ne veut pas la mort du pécheur. Il ne veut pas que nous restions dans nos tics égoïstes. Il ne veut pas que nous restions dans nos misères. Et comme il ne veut pas notre mort, il veut que nous puissions nous convertir. C'est pour cela, il est pardon, il est miséricorde. Amen. Voyons dans l'Ancien Testament comment des hommes et des femmes comme vous et moi avaient expérimenté cette miséricorde de Dieu. Si Dieu est un père, c'est l'image qu'on m'a toujours présentée dans mon enfance. Ce père barbu, voyez-vous, j'avais peur un peu de voir ces images-là. Et quand je dormais parfois, j'avais l'impression que ce père était en train de tirer sur sa barbe. Je me disais, c'est un drôle de Dieu. Mais en grandissant, j'ai découvert en lisant l'Ancien Testament et le Nouveau Testament que si Dieu est père, certes, il est un père qui a des seins d'une mère. Il est un père qui a des entrailles d'une mère. Et chaque fois qu'il s'approche d'un pécheur, son cœur de mère vibre. Son cœur qui est lent et tendre veut accorder la force, veut accorder le pardon. L'histoire sainte nous la révèle. Nous avons cet ancêtre de notre foi, Abraham, il s'appelait, âgé, 80 ans, avec sa femme, Sarah, stérile, elle, la risée de la société, elle qui n'avait pas d'enfant. Et quand Abraham et sa femme reçoivent la visite de Dieu à Mambré à travers ces visiteurs inconnus qu'ils accueillaient, il leur fait une promesse. Ta femme enfantera. Elle-même n'y croit pas. Abraham n'y croit pas. Et dans sa vieillesse, elle enfantera. C'est cela aussi la miséricorde de Dieu. Rien n'est impossible aux yeux de Dieu. Amen. Nous avons dans la suite Moïse. Voici quelqu'un qui a grandi dans la cour de Pharaon. Quelqu'un qui était un peu retranché, qui ne connaissait pas ce qui se passait dehors. Et Moïse, lui, reçoit la révélation, il reçoit la mission d'aller libérer le peuple d'Israël en Égypte. L'histoire de Moïse, pourquoi je la cite? Nous pouvons la relire dans les livres de l'Exode, et je prends particulièrement l'Exode, le chapitre 34, le verset 6. Je cite, « Et il passa devant Moïse, proclamant, le Seigneur, le miséricordieux. » Je prends la traduction littérale en grec. « Et Dieu gracieux. » En français, on dit Dieu qui accorde la grâce, lent à la colère, abondant dans l'amour et la fidélité. Pourquoi je reprends ces passages? Voyez-vous, Moïse bégayait. Moïse, c'était un timide. J'ai entendu tout à l'heure dans les témoignages, je suis timide, je ne pouvais pas parler. Moïse était comme ça. Quand le Seigneur lui demande une mission, il tremble. Il lui a joint Aaron, bien évidemment. Mais il me semble que si Dieu se révèle à Moïse comme miséricordieux, lent à la colère, fidèle, plein de tendresse, c'est parce qu'il se révèle à nous aussi, mes frères et sœurs, comme ce Dieu miséricordieux. Et quand il nous confie la mission, comme baptisé, d'annoncer son règne de paix, son règne d'amour, son règne de réconciliation, peut-être que nous avons peur, mais nous pouvons aujourd'hui, dans ces groupes de prière, nous jeter dans ses bras. Nous pouvons dans la confiance nous confier à sa grâce, à sa miséricorde pour recevoir la force. Parce que Dieu est miséricordieux, il a accordé sa force à Moïse. Parce que Dieu est miséricordieux, il accorde sa force à toi, ma sœur, et à moi. Parce que Dieu nous accorde sa miséricorde et il veut que nous, nous soyons aussi miséricordieux les uns les autres. Amen. Voyez l'histoire sainte, j'ai raconté à un ami scientifique, je suis scientifique de formation, quand je faisais mon doctorat en chimie, un ami, il s'est dit athée, on discutait beaucoup de la Bible. Il savait que j'allais au groupe à Lyon et j'ai logé avec la communauté du Chemin Neuf que je connais. Voyez, un jour je lui dis l'histoire du christianisme est entanchée parfois de moments difficiles. On a l'impression des moments de douleur, des moments d'échec, et Dieu choisit parfois ce qui est faible et fragile pour se révéler. Il me disait, vous devez être des fous. Imaginez un vieillard, avec les langages d'aujourd'hui, on dirait un papy qui est à la retraite. Dieu l'appelle et lui demande de partir. Abraham, quitte ton pays, va. Il l'envoyait où? Abraham ne savait même pas où le Seigneur l'envoyait. Signe qu'il était béni parce qu'il allait à la bonne direction. Et Abraham nous dit que malgré la faiblesse, si on dit oui à Dieu, on reçoit la bénédiction. Dieu avait besoin de quelqu'un pour sauver un peuple. Il prend un homme fragile, Moïse, qui va affronter Pharaon et ses armées. Dieu avait besoin d'un roi. Je vais revenir sur l'histoire de David. Dieu avait besoin de quelqu'un pour guider le peuple. Il choisit pas les grands enfants, il choisit pas les victorieux, il choisit pas des hommes forts. Il prend un tout petit, fragile, David, et il fait de lui un roi. Mais l'histoire de David, pourquoi je la raconte? Elle nous révèle tout justement la miséricorde de Dieu. Si vous prenez dans 2 Samuel, au chapitre 11, les 12 premiers versets, mais également les versets 25, je ne vais pas les lire, vous pouvez les relire. C'est l'histoire de ce qu'on appelle le péché de David. Amen. David, qui est un roi, David, qui est dans la prospérité, David qui est craint dans le royaume, David qui a la force, David qui a l'armée, un jour, il sort de chez lui, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit la femme de Hittite, Uri le Hittite, qui s'est lavée, et il est touché, il est amoureux, il tombe dans le péché puisqu'il est marié. David va sortir avec la femme de Uri le Hittite, comme par hasard, celle-ci est enceinte, et David va commettre un double péché. Le premier péché, c'est que, d'abord, il a menti à sa femme, puisqu'il était marié. Il a menti à son Dieu, puisque Dieu lui avait accordé sa confiance. Et non seulement il a menti, il commet un deuxième péché, c'est qu'il va envoyer Uri le Hittite, son général d'armée, au front, pour qu'il meure, afin de cacher son péché. Mais vous voyez, si on ne s'arrêtait que là, on se dirait comment se pourrait-il que David soit aussi vénéré dans notre foi. Mais l'histoire de David nous démontre que la miséricorde de Dieu va au-delà de nos misères. Et David va vivre ce qu'on appelle un lâcher-prise. Il va craquer, comme disent les jeunes à l'aumônerie. David va crier devant le Seigneur, il va faire son deuil. Et David nous révèle quoi aujourd'hui? Que Dieu est tendre et miséricordieux. Que Dieu est lent à la colère, plein d'amour. Que c'est Dieu que nous prions. Que c'est Dieu pour lequel nous sommes rassemblés ce soir. Il nous dit, il te dit à toi mon frère et ma sœur, que ton histoire est sacrée. Il te dit comme il disait à David, qu'au-delà de ce qui apparaît comme des échecs dans ta vie, qu'au-delà de ce qui apparaît comme inachevé et bancal, qu'au-delà de ta culpabilité, il veut te communiquer ta force et te demande de tourner vers l'avenir en t'accordant sa miséricorde. Amen. Et David nous a laissé ces bons chants, si vous lisez le psaume 108, le verset 3, qui rappelle la grandeur de Dieu, un Dieu lent à la colère, un Dieu miséricordieux, un Dieu tendre, un Dieu bon. Dieu n'est pas rancunier, sa miséricorde est infatigable. Nous pouvons crier comme tout tous ces personnages de l'Ancien Testament, comme Michée au chapitre 7, le verset 18, peut-on trouver un Dieu comme toi, Seigneur? Nous pouvons ce soir dire comme lui, viens Seigneur, noyer nos péchés au fond de la mer, aide-nous à tourner une page, accorde-nous ta miséricorde pour que nous soyons sauvés. Amen. Oui, le cœur de Dieu vibre face à notre misère chaque fois que nous prenons conscience qu'il est compatissant et qu'il n'est pas un juge. Ça, je l'ai découvert dans mon parcours, je l'ai découvert grâce à l'Esprit Saint, je l'ai découvert chaque jour quand, avant de dormir, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, fais-moi confiance. On peut répéter cette phrase, Seigneur, aie pitié de moi. Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, je te fais confiance. Seigneur, aie pitié de moi, Seigneur, je te fais confiance. Amen. Et quand je grandissais, vous voyez, j'avais une image d'un Dieu aussi dur. Si vous avez grandi avec des parents assez rigoureux, un papa assez dur, si on vous dit que Dieu est un père, vous vous dites tout là. Si je me souviens de mon père, faire attention. Une maladresse à l'aumônerie un jour, je demande aux enfants de l'aumônerie, puisque je suis aumônier, de dessiner Dieu. Parce que tous, évidemment, dessinent Dieu avec beaucoup de cheveux, tout ça. Il y en a des cheveux coupés comme moi, tout ça. D'autres avec la barbe. Et un enfant dessine quelqu'un sans une tête. Je dis, oula, là, il y a un problème. Ça, c'est pas le Dieu que je connais. Il me dit, si, Père Alfred, mais je ne veux pas mettre la tête de ce Dieu-là. Pourquoi? Il dit, je ne veux pas mettre la tête d'un père. Pourquoi? Parce que je déteste un peu mon père. Aïe, là, il y a un souci. Oui, il fallait lui expliquer que le Dieu que nous prions, si nous avons l'impression qu'il nous châtie, si nous avons l'impression qu'il nous laisse dans le combat, si nous avons l'impression que ce Dieu-là, il est absent, c'est au cœur de nos faiblesses, c'est au cœur de nos difficultés qu'il se révèle comme un père. Le Dieu que nous prions, il fait pas la comptabilité de nos péchés. Voyez-vous, c'est l'image que cet enfant m'a révélée. Dieu, il n'est pas là à regarder nos journées, et à la fin de la journée, il met des rubriques. Qu'est-ce que nous avons fait de bon? Qu'est-ce que nous avons fait de mauvais? Il fait comme une ventilation des comptes pour tirer des conclusions. Un professeur de théologie me disait, Alfred, tu sais, Dieu a une mémoire courte. J'ai dit, mais pourquoi? Parce que quand il pardonne, quand il accorde sa miséricorde, il oublie. Amen. Et ce Dieu-là, nous sommes venus aujourd'hui l'invoquer, le prier. Ce Dieu, il s'est révélé, je passe de l'Ancien Testament au Nouveau Testament. Ce Dieu, il naquit au premier siècle, il s'appelait l'Emmanuel. Son langage était très troublant parce qu'il pardonnait et il parlait que de l'amour. Ce Dieu, il était un peu bizarre déjà à l'époque, parce que voyez-vous, qu'est-ce qu'il appelle dans sa miséricorde des hommes frustes, des hommes simples? On les appelle des pêcheurs de Galilée. Ils n'étaient pas que des pêcheurs de poissons, ils étaient des pêcheurs dans leur corps et dans leur chair. Et ce sont ces pêcheurs-là qui vont les suivre, qu'il va former durant 3 ans. Et ce sont ces pêcheurs-là qui s'appellent Pierre, Jacques, Jean, André, qui seront témoins de la miséricorde de Dieu sur la croix. Et ce sont ces pêcheurs-là qui nous ont d'abord révélé, dans la suite des apôtres et des disciples, les dieux pour lesquels nous sommes rassemblés. Et nous sommes rassemblés ce soir pour faire aussi l'expérience de ces premiers noyaux, de ces apôtres. Je voulais vous mettre dans un parcours, dans ces premiers temps, à prendre conscience que nous n'avons pas intérêt à cacher nos transgressions, que nous n'avons pas intérêt à cacher nos tics égoïstes, et que quand nous sommes devant Dieu, quand nous continuons à regarder la croix du Christ, il nous demande, nous, d'être nus, c'est-à-dire de nous jeter dans sa miséricorde pour qu'il nous accorde son pardon. Le visage de Dieu, est le visage de la miséricorde. Et c'est ce visage-là que Jésus-Christ est venu nous révéler, nous dit le pape François. Amen. Et si nous faisons le parcours avec les apôtres, nous voyons qu'il parcourait les villes. On disait de lui que partout il passait, il faisait le bien. On disait que c'était quelqu'un de bien. Il était attentif aux faibles, aux cabossés de la société. Il était attentif aux pauvres, et c'est pour cela qu'il les guérissait, il les accordait son pardon. Et nous voulons ce soir qu'il nous regarde nous aussi, comme il a regardé Marie-Madeleine dans Luc 7, les versets 36 à 50, avant de faire d'elle ce qu'on appelle l'apôtre du Christ, car elle s'est fait aimer. Et voyez-vous, Marie-Madeleine, son histoire, elle est complexe. Elle, la femme impure, quand vous regardez dans les textes en grec, on dit qu'elle était une femme de mœurs douteuses, une personne peu recommandable pour la société. J'ai demandé à un jeune scout un jour, comment tu peux traduire cela en français? Il m'a dit, Père Alfred, qu'on arrête de raconter des histoires. Aujourd'hui, on dirait d'elle qu'elle était une pute. C'est simple. Et c'est elle, la pute, qui vient oindre les pieds de Jésus. Souvenez-vous. Et les autres récriminent comme ça peut arriver. Ouh là là, s'ils savaient qui était cette femme mauvaise, ils n'allaient pas la laisser. Mais en allant s'agenouiller auprès du Christ, le message théologique, c'est quoi? C'est ce jour-là qu'elle vit sa conversion. C'est ce jour-là, elle se purifie. Et Marie-Madeleine, l'histoire démontre que au matin de la Pâque, cet homme-là, on l'a arrêté, on l'a tué, on l'a condamné. L'espoir s'étiole, l'utopie s'évanouit. Les apôtres sont là, frileux. Comme dit un jeune à l'aumônerie, les apôtres, une bande de nuls, ils n'ont rien fait. Cette bande de nuls a peur et Marie-Madeleine va au tombeau dans la foi. Et c'est Marie-Madeleine, la prostituée, qui va le dire aux apôtres, il est vraiment ressuscité. Cet homme, ce qu'il vous avait dit, je suis allé, j'ai vu que le tombeau était vide, j'ai cru. Voyez? Et mon ami scientifique me disait, il faut être quand même un peu taré dans les langages d'aujourd'hui. Il faut être ridicule. Quand les apôtres vont au tombeau, ils voient quoi? Au fait, ils voient rien. Et il me dit, ils voient rien, vous vous croyez. Et en plus, elle, Marie-Madeleine, ne voit rien, elle va annoncer aux autres. Elle qui a des mœurs un peu douteuses, hein, et ils courent au tombeau, tous, comme une bande de nuls, ils croient. Vous êtes des malades, je le dis oui. Puisque des malades, nous sommes des fous. Parce que nous croyons, nous, vous et moi, à la mort et à la résurrection du Christ. Amen. Si le Christ n'est pas mort et ressuscité, comment parmi vous, certains disent, dit Paul aux Galates, que les morts ne ressusciteront pas. Or, si les morts ne ressusciteront pas, donc le Christ n'est pas ressuscité, et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Amen. Vaine est cette célébration que nous vivons ici, vaine est cette prédication, vaine est cet enseignement. Est-ce que vous êtes, vous, comme moi, de ceux qui croient à la mort et à la résurrection du Christ? Et si vous êtes d'accord, nous pouvons applaudir ce Jésus-Christ. Marie-Madeleine, et puis il y a la femme adultère, Jean 8, 1 à 11. Je vais pas raconter toutes les histoires, sinon nous resterons toute la nuit ici. La femme adultère, elle n'avait même pas de nom. On l'amène à Jésus. Elle vient de commettre l'adultère. Voici ce qu'est écrit la loi. Attention, il faut bien interpréter tous ces versets-là. Jésus-Christ ne dit pas à la femme adultère comme Père Noël, « Ouais, les choses se passent bien, vas-y, recommence, reviens, fais comme tu veux. » Non, ils t'ont pas jeté la pierre, ils t'ont pas condamné, je ne te condamne pas, moi non plus. Attention, Jésus-Christ ne dit pas qu'il ne condamne pas les péchés. Ton péché, je ne suis pas d'accord avec. C'est que je ne condamne pas C'est la force qui est en toi. C'est le désir d'avancer qui est en toi. Dieu condamne notre péché, notre mal. Il veut pas que nous restons dans la boue, dans la merde, comme on dit aujourd'hui, excusez l'expression. Amen. Mais ce que Dieu ne condamne pas, ce que Dieu pardonne, sa grâce et sa miséricorde, c'est sur la personne, sur notre être. Et ce Dieu-là, il te le dit aujourd'hui, comme il dit à la femme adultère, les autres n'ont pas de raison de te condamner dans ces groupes de prière parce qu'ils sont des pécheurs. Moi non plus, je te condamne pas, mais ne recommence pas. La suite, peut-être nous allons nous arrêter sur l'évangile de Luc, je vais terminer par là, qui est l'évangile de la miséricorde, où le processus de Dieu miséricordieux est le même, c'est-à-dire aider les pécheurs à se reconnaître pécheurs, et ensuite accueillir le pardon offert en Jésus-Christ, un pardon qui ne revient pas sur les fautes, sur le passé. Et en regardant, mes frères et sœurs, le comportement de Jésus, nous comprenons mieux le Père miséricordieux, tel que les psaumes 86, les versets 15 et 16 et 17, nous l'a dit. Mais toi, Seigneur, Dieu de tendresse et de pitié, lent à la colère, plein d'amour et de fidélité, tourne-toi vers moi, pitié pour moi, donne à ton serviteur ta force et ton salut, au fils de ta servante, fais pour moi un signe de bonté. David et tous nos ancêtres dans la foi ont ressassé ces psaumes parce qu'ils ont fait l'expérience d'un Dieu miséricordieux. Les apôtres, à un certain moment, ils devaient craquer pour découvrir le vrai visage de Dieu. Pierre, qui est fougueux, qui a l'énergie, finit par les renier, finit par dire, je connais même pas cet homme au pied de la croix, quand on l'arrête, mais Jésus les regarde avec un regard bienveillant. Il me semble que c'est ce regard qu'il pose sur toi, mon frère, sur toi, ma sœur, un regard qui construit, un regard qui ne condamne pas. Amen. Je disais que je vais terminer par l'évangile de Luc. Je vais pas tout lire parce que ça va être très long. Vous allez les relire. L'évangile de Luc est appelé l'évangile de la miséricorde à cause du chapitre 15, en particulier, du premier verset au 32e verset. C'est très long. Que disent ces versets? Ils nous donnent les trois paraboles de la miséricorde qui nous montrent les vrais visages du Dieu dans notre histoire. La première parabole, nous la connaissons, c'est la brebis perdue, retrouvée. Vous imaginez, vous avez 100 brebis et il y a une, comme disait un jeune, une têtue qui n'écoute pas, qui ne comprend rien de ce qu'on lui dit, qui va se promener et vous laissez les 99 autres brebis pour aller à la recherche de cette brebis-là. Humainement, c'est irrationnel. Il y a très peu de fermiers qui se comportent comme ça. Il y a très peu de gens qui prennent ce genre de risques. Il va chercher la brebis perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve. Et quand il la retrouve, dit le texte, il la prend sur ses épaules, il la remet dans la clôture avec les autres brebis et il rend grâce à Dieu. Et un jeune, quand j'explique tout ça aux jeunes, à l'aumônerie, les jeunes, ils ont des images. Ils disent, Père Alfred, quel risque? Peut-être que c'était une brebis galeuse. Ça, je n'avais pas réfléchi. Je suis dit, ouais, l'évangile ne le dit pas. Mais peu importe, prenons qu'elle était une brebis galeuse. Peut-être parmi nous, il y a aussi des brebis galeuses. Celle-là, Dieu les cherche davantage, indéfiniment. Celles-là qu'elles se sentent davantage aimées et quand il les retrouve, il les transporte. Notre pape, il fait un beau commentaire de ce texte, il renverse ce que l'évangile dit. Il dit au fait, il n'y a qu'une brebis qui est très bonne dans la bergerie. Celle-là, elle ne se soucie rien, elle obéit, elle rentre à temps. Et puis, toute l'église, c'est 99 brebis galeuses. Et Dieu se fatigue à les chercher, les 99, jusqu'à ce qu'il les retrouve. Parce que le pape Oui, il met l'accent sur la dimension communautaire en se disant, il n'y a pas à jeter la faute sur un seul pécheur. Si tous nous sommes des pécheurs, tous nous avons besoin d'être recherchés et d'être retrouvés. Amen. C'est cela la pédagogie de Dieu. Deuxième parabole, regardez. La pièce perdue est retrouvée. Même processus, cette dame, on ne la connaît pas, qui cherche indéfiniment cette pièce. Et quand il la retrouve, elle est dans la joie. Elle partage cette joie. C'est l'image de Dieu qui recherche et quand il retrouve, il est dans la joie. Enfin, la parabole ici, ça s'appelle du fils retrouvé. On peut dire le fils prodigue. Il y a plein de titres à cette parabole. Vous la connaissez l'histoire, cet enfant qui veut la liberté. Nous voulons la liberté. Et nous sommes dans une société où tout ce qui vient du dehors de notre conscience ne passe pas toujours. Et je vois les jeunes qui me disent, qui es-tu Père Alfred pour nous demander de faire ceci, de faire cela? Nous voulons être libres. Nous sommes une république, nous sommes une démocratie. Laissez-nous en paix. Vis-à-vis de Dieu, nous nous comportons aussi comme ça. Nous reléguons Dieu de tout ce que nous faisons. Nous le vaquillons parce que nous croyons intelligents. Nous voulons tout faire avec nos propres forces. Et nous faisons l'expérience de l'éloignement. Notre péché nous éloigne. Mais comme ce fils prodigue, à un certain moment, il faut s'asseoir, s'arrêter et dire, au fait, trop c'est trop Seigneur. Je suis allé trop loin, il faut que je revienne. Une décision. La conversion commence aussi par une décision. Qu'est-ce que la conversion? J'ai demandé aux enfants à l'aumônerie. Père Alfred, la conversion, une fille, lève la main. C'est quand tu te réveilles le matin, chaque jour, et tu te dis, mais au fait, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais changer? Qu'est-ce qui est mauvais dans mon comportement? Que je le change pour que je retrouve l'amitié de Dieu. C'est pas mal comme définition. Changer de direction, c'est de se dire, bon, écoute, je suis allé loin, aujourd'hui, je retourne. Mais regardez le processus de ce Dieu-là. Quand le fils arrive, il a préparé son discours, Dieu ne l'écoute même pas. Et quand je confesse beaucoup, je suis allé à Lourdes, beaucoup de gens viennent avec une culpabilité. Vous voyez, dans ma paroisse, il y a même une dame, je ne la critique pas, je célèbre le mardi et le vendredi. Elle, chaque mardi et chaque vendredi, elle se confesse. Ah, c'est un moment, t'as envie de dire, c'est presque les mêmes choses, on les dit au Seigneur. Mais elle vient confesser mardi et vendredi parce qu'elle est dans la culpabilité. Et quand elle a terminé la confession, 5 minutes avant que je commence la messe, elle me tire dans la sacristie et me dit, Père Alfred, j'ai oublié aussi ça. Je dis, alors, il y a encore autre chose. Non, ça va, vous priez pour moi, oui. Vous avez fini la messe, elle vient vous demander, est-ce que vraiment le Seigneur m'a pardonné? Une âme scrupuleuse, une conscience lourde, mais je comprends, elle a grandi dans cette image d'un Dieu vengeur. Elle a grandi, cette dame, avec l'image d'un Dieu qui, avec des loupes, lui dit, oula, aujourd'hui c'est bon, c'est pas mauvais, ainsi de suite. Sinon, elle va en enfer. D'ailleurs, elle parle tout le temps de l'enfer. Je lui ai dit, au lieu de parler du péché, parle de la grâce. Parce que là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Amen. Le fils ne raconte même pas son histoire qui a la fête. Chaque fois que nous nous convertissons, Dieu organise une fête pour nous. Chaque fois que nous prenons la décision de lui raconter toutes nos misères, il n'a même pas le temps de l'écouter. Il nous demande de prendre part, comme il demande aussi au fils aîné, qui ne veut pas jouer les jeux de la fête et de la conversion, d'entrer dans la salle des fêtes pour recevoir sa force, pour nous réjouir pour un pécheur qui se pardonne. Amen. Le dernier texte, avant qu'on prie, c'est toujours dans Luc, l'histoire de Zachée. C'est le chapitre 19, les 10 premiers versets. Je vais les lire, celui-là. Entré dans Jéricho, Jésus traversait la ville. Survint un homme appelé Zachée. C'était un chef de collecteur d'impôts et il était riche. Ils cherchaient à voir qui était Jésus et ils ne pouvaient y parvenir à cause de la foule, parce qu'il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore afin de voir Jésus qui allait passer par là. Quand Jésus arriva à cet endroit, levant les yeux et lui dit, « Zachée, descends vite, il me faut aujourd'hui demeurer dans ta maison. » Vite, Zachée descendit et l'accueillit tout joyeux. Voyant cela, tous murmuraient. Ils disaient, « C'est chez un pécheur qu'il est allé loger. » Mais Zachée s'avança, dit au Seigneur, « Eh bien, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens, et si je fais tort à quelqu'un, je lui rends les quadruples. » Alors Jésus dit à son propos, « Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Amen. Peut-être quelques commentaires de ce texte, rapides commentaires. Bon, c'est l'histoire, elle est connue. Zachée de petite taille. Il a entendu parler sûrement des miracles de ses rabbins hors normes. C'est Jésus-Christ qui, en parcourant les villes, guérissait. Et à Jéricho, nous avons Bartimée. À Jéricho, Jésus a fait tellement de choses. Il est en train de passer pour aller à Jérusalem où il va affronter la mort et la résurrection. Et Zachée peut-être est curieux, comme nous pouvons être curieux. Mais l'histoire de Zachée, voyez, vous avez écouté des homélies, je prends une autre perspective de ce texte. L'histoire de Zachée, c'est la rencontre des deux désirs. Il y a d'un côté le désir de Zachée qui veut voir Jésus par curiosité. Peut-être il y en a qui viennent dans le groupe de prière par curiosité parce qu'ils ont entendu parler. Ou, oh, bon, j'ai rien à faire cet après-midi, voyez-vous. Vous voyez, ces gens qui disent, la première chose, ils entendent, est-ce qu'il y a le chauffage ou pas? On dit, oh non, il n'y a même pas le chauffage. Il dit, oula, j'aurais pu rester chez moi, tout ça. Et à la fin du groupe de prière, il dit, oh, j'avais bien fait de venir, tout ça. Et puis, les rumeurs. Zachée est peut-être dans les rumeurs. Et il vient voir par curiosité. Il a un désir, mais son désir est profond, comme votre désir aujourd'hui, persévérant, se disant, peu importe nos journées, nos habitudes, nos préoccupations, nous allons, qu'est-ce qui va se passer? On ne sait pas, quelque chose se passera. Amen. Dites à votre voisin, quelque chose va se passer aujourd'hui. Bon, je le fais exprès aussi pour réveiller ceux qui dorment un peu, donc vous avez compris. Mais je le fais surtout au niveau de la foi. Zachée, il croit que quelque chose va se passer. Et il monte sur un sycomore. Imaginez un inspecteur des impôts, connu dans les quartiers, qui monte pour voir quelqu'un passer. Même le ridicule ne l'empêche pas dans son élan. Il est de petite taille, c'est déjà un obstacle. Il est une espèce de paria. Il est infréquentable. Et les jeunes, je prends beaucoup le mot des jeunes, excusez-moi les adultes, parce que je suis en contact avec les jeunes, des Zachée, ils disent quoi? Zachée, Père Alfred, c'est un sale collabo. Je dis, alors, un sale collabo qui s'est enrichi en ruinant le peuple, et il veut voir Jésus aujourd'hui. Et Jésus comble son désir. Il s'arrête. C'est Jésus qui prend l'initiative. Quand vous venez au groupe de prière, mes frères et sœurs, quand vous décidez de venir crier aujourd'hui devant la croix en disant, Seigneur, aie pitié de moi, lui fait 1000 pas, il vous rejoint, il comble déjà votre désir. Amen, amen. Et Jésus-Christ s'arrête, aujourd'hui, descend, le salut va entrer chez toi. Mais un mot, je voulais que vous le reteniez de ce que j'ai dit, c'est le mot aujourd'hui. Souvent on prend des versets, tout ça, je vous fais pas mémoriser des versets, je vous demande de mémoriser un mot, aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est l'aujourd'hui de la foi. Et Dieu ne nous rejoint pas dans notre passé. Il est sacré notre passé, même s'il est marqué par des lignes courbes. Il a écrit dans cette histoire à travers toutes ces lignes. Et il nous dit aujourd'hui, malgré ton passé, tu as dit prie à mes yeux. Dieu ne nous rejoint pas dans le futur parce que nous ne savons pas le futur. Peut-être vous, en tout cas moi pas. C'est comme ça que quelqu'un m'a demandé, Père Alfred, comment on sera à la résurrection? Je lui ai dit, je ne suis jamais mort et ressuscité, donc je ne peux pas t'en parler. Comment tu veux que je t'en parle, madame, à la fête de la messe? Père Alfred, explique-moi cette histoire de résurrection, mais on sera comment nos corps, quoi, on va saigner, tout ça. J'ai dit, madame, je ne suis jamais mort. je ne suis jamais ressuscité. Lazare nous aurait pu dire des choses. Lui était mort, était ressuscité. Or, nous croyons à la mort et à la résurrection parce que Jésus-Christ dit quoi? Moi qui suis mort et ressuscité, je ressusciterai avec vous et je vous ressusciterai. Amen. Dieu ne nous rejoint pas dans ce futur-là. Il nous rejoint aujourd'hui, dans l'aujourd'hui de notre foi. Il te dit à toi, mon frère, il te dit à toi, ma sœur, aujourd'hui, je vais demeurer chez toi. Il te dit à toi, mon frère, il te dit à toi, ma sœur, aujourd'hui, je vais aller purifier ta maison. Vous voyez, toutes ces ficelles, tous ces gris-gris, des petits trucs qui sont là, qui te bloquent, qui te compliquent, je vais souffler dessus. Tu retrouveras la liberté. Amen. Je suis allé prier pour une famille, hein, parce que la femme sentait que l'hélicoptère tombait dans sa maison la nuit. J'ai dit, est-ce qu'il y a un aéroport chez toi? Elle dit, non, le bruit des tôles, tout ça, je comprends pas. Mais le mari, en fait, avait trempé dans des histoires, voyez. Il avait des bracelets, des amulettes, des trucs venant d'Afrique. Il avait plein de choses en même temps. Il venait au groupe de prière, il venait à l'église, il communiait, tout s'est compliqué. Aujourd'hui, je lui ai dit, aujourd'hui, avec la puissance du Saint-Esprit, nous allons supprimer cela. Et ceux qui sont là aujourd'hui, qui croient à la force du Saint-Esprit, ceux qui sont là aujourd'hui, qui veulent confier au Seigneur toutes ces peurs, voyez-vous. Je suis d'origine africaine, et quand je prie chez les Africains, oui, mon oncle était de passage chez moi, depuis qu'il est passé chez moi, je ne dors plus. Mais pourquoi tu dors plus? Mais pourquoi tu dors plus? C'est des blagues, mais je le dis avec humour. Oui, parce qu'en fait, généralement, quand il vient, il prend jamais le dessert ou quoi. Ce jour-là, il a pris du camembert, du fromage. Depuis que je prends le camembert, je tombe malade. Et je dis, madame, ne prends pas le camembert, achète autre chose. Je suis allé prier et imposer les mains, asperger de l'eau bénite avec du sel, demander la force et redire comme dans la maison des Achés, aujourd'hui, je fais ma demeure chez toi. Aujourd'hui, le salut est entré chez toi. Amen. Et regardez la suite. Je termine par là. On est au repas. Les autres crient toujours. Oula, lui aussi il va dans le groupe de prière. Oula, pourquoi ceci? Il y a des murmures. Zaché, il s'est converti là. Pourquoi il s'est converti? Parce qu'il s'est senti reconnu, voyez-vous. Peut-être c'était le seul jour de l'année, le seul jour de sa vie, où il s'est senti regardé comme fils d'Abraham. Pas regardé en fonction de son passé, de son histoire. Nous regardons les autres parfois en les identifiant à ce qu'ils ont fait de mal, à leur travail, à leurs tics égoïstes, à leurs chichis comme on les appelle. Dieu ne nous regarde pas comme ça. Quand il nous regarde avec bienveillance, il veut nous restaurer dans la communauté, nous redonner courage. Et Zaché fait une promesse. Imaginez que c'était au restaurant, vous êtes en train de manger avec Zaché et Jésus, mettez-vous dans la scène, on dirait quoi, un toast. Il fait, quand vous voyez, on finit les repas, tout ça, et puis on dit, ouais, le pourboire, ça marche le pourboire. Zaché donne un pourboire spirituel. Je donnerai plus que ce que j'ai volé, 4 fois. Plus que ce que j'ai amassé. Pour Zaché, qui nous rappelle aujourd'hui que l'attention de l'Église, que l'attention dans la foi, c'est une priorité vers les pauvres. Pas ce qu'il a accumulé, mais ce qu'il a envie de donner. Ce n'est pas forcément en accumulant qu'on a la joie, mais parfois en libérant, parfois en donnant, qu'on retrouve la joie. Et si nous donnons en vérité, Dieu vient faire sa demeure à nous. Dieu vient combler notre cœur. Amen. Nous allons chanter et prier. Seigneur, nous voulons te louer, nous voulons te rendre grâce. Nous voulons te dire merci parce que tu nous rappelles que ta miséricorde est plus grande que notre misère et celle du monde entier. Oui, Seigneur, qui a pris la mesure de ta bonté, qui sommes-nous pour nous approcher de toi aujourd'hui et accueillir ces dons, cette grâce? Nous voulons, avec les frères ici, te glorifier encore une fois, parce que ce que tu aimes en nous, c'est aussi notre faiblesse. Et quand nous prenons conscience de notre faiblesse, tu nous communiques ta force. Oui, Dieu éternel, nous te bénissons parce que tu es un Dieu bienveillant, un Dieu qui, comme pour Zachée, pour Madeleine, pour la femme adultère et pour tous ces pécheurs, tu accordes ton pardon, tu accordes ta force là où notre péché nous culpabilise. Tu viens faire ta demeure à nous aujourd'hui. Viens dissiper nos doutes et nos angoisses. Viens purifier nos cœurs préoccupés. Viens nous donner la force que tu avais donnée à Zachée. Viens nous communiquer le souffle que tu avais communiqué à tes esprits. Oui, tu fais ta demeure au plus profond de nous. Amen. Je vais aborder le deuxième point qui sera un peu moins long. La croix comme source de la miséricorde. Rassurez-vous, je ne vais pas faire l'apologie de la croix, parce que souvent, j'ai réalisé que tout le monde est remis, et une dame m'a dit un jour, la croix nous rappelle parfois des souvenirs tristes. La croix nous rappelle nos difficultés, nos combats quotidiens. La croix nous rappelle notre chemin de calvaire à la recherche du travail, nos difficultés avec les enfants, avec les voisins. Mais rassurez-vous, la croix dont je vais parler ce soir, c'est celle qui est l'instrument de la vie et non l'instrument de la mort. C'est la croix de Christ qui nous révèle la miséricorde de Dieu. Nous allons ce soir nous tourner vers la croix du Christ comme symbole de cette vie. Et à travers elle, Jésus-Christ nous invite à vivre ce que lui-même a vécu, à savoir trois choses en contemplant la croix. D'abord, l'abandon. Sur la croix, il s'abandonne à son Père dans la confiance. Et l'évangile de ce week-end que je vais prêcher, ce week-end du Christ roi, nous parle de la croix glorieuse. En lisant les textes, il y a quelques jours, je me suis dit, tiens, c'est curieux que l'Église choisisse l'évangile de la crucifixion pour nous manifester cette fête du Christ roi de l'univers. Pourquoi la croix dans le christianisme? La croix, mes frères et sœurs, elle est démentie peut-être de l'image toute puissante aussi de ce Dieu-là que nous nous faisons. Voyez, ce Dieu qui interviendrait dans nos problèmes selon nos désirs. C'est Dieu qui serait là dans un coin et quand nous avons besoin de lui, on l'appelle, il résout nos problèmes et on les laisse, il se barre, comme disent les jeunes. La croix nous dit, c'est faux. La croix nous révèle quoi? La faiblesse de Dieu. Un Dieu tout puissant qui est là dans le silence, faible, qui accorde le pardon. L'abandon, le Christ le vit aujourd'hui dans la croix. Regardez la scène. Il est crucifié avec deux malfaiteurs. On le tourne en dérision, on se moque de lui. Toi qui s'est dit sauveur, toi qui en as sauvé d'autres, toi qui as guéri les malades, toi qui as ressuscité les morts, pourquoi tu ne peux pas descendre de cette croix? Souvent, nous le disons aussi nous, quand nous sommes dans les difficultés. Souvent, nous le disons comme les apôtres quand nous sommes déçus. Voyez, les apôtres, ils trahissent Jésus-Christ parce qu'ils sont déçus. Ils trahissent Jésus-Christ parce qu'en fait, ils laissent leur femme, leur maison, tout ça pour suivre cet homme. Et à la dernière minute, ils réalisent qu'effectivement, on va l'arrêter. Mais Pierre n'y croyait pas parce qu'il dit, allons à Jérusalem, je vais mourir avec toi. Quand on arrête Jésus, lui détale. Ils sont choqués, ils sont déçus. Ils attendaient un Messie sociologique humain qui ferait tout ce qu'il voudrait, qui leur donnerait le pouvoir. C'est un Messie glorifié sur la croix qui manifeste sa force dans la faiblesse. L'abandon. Peut-être la première grâce que je vais demander pour vous, c'est la grâce de l'abandon. Voyez-vous, c'est difficile de s'abandonner parce que nous sommes des êtres intelligents. Et nous sommes des cartésiens. Nous avons des raisons d'être intelligents. Nous ne sommes pas des souches. Nous ne sommes pas des nuls. Quand vous êtes rassemblés, vous êtes un peuple. Nous ne sommes pas une bande de monades assises là. Nous sommes des êtres qui réfléchissons, qui écoutons, et nous nous posons des questions. Mais quand nous regardons la croix pour recevoir la miséricorde de Dieu, pour recevoir sa grâce, il faut s'abandonner. Mon Père, je m'abandonne à toi. Amen. Le deuxième mouvement de la croix, c'est le lâcher prise. À un certain moment, Jésus pleure dans son être, dans son corps, avant de pardonner. Il pleure. Les soldats qui étaient là sont touchés aussi. Les larmes de Jésus purifient l'humanité. Jésus a tellement pleuré pour nous que je me révolte de voir des gens qui pleurent éternellement. Amen. Il a tellement pleuré pour nous. Jésus a déjà déprimé pour nous, mes frères et sœurs. Dites encore à votre voisin, quelque chose va se passer pour vous aujourd'hui. Ceux-là, ce sont parmi nous, le Seigneur leur demande de lâcher prise, voyez-vous. Le lâcher prise, c'est le mouvement de Pâques, c'est le mouvement de la croix. Lui qui était des conditions divines, nous sommes dans l'hymne aux Philippiens. Lui qui était sur le trône, il s'est dépouillé. Lui qui était dans la divinité, dans la Trinité, il a eu pitié de nous, qu'il est descendu. En théologie, on appelle ça la kénose, c'est un terme grec. Une descente, il est venu habiter dans nos prisons pour nous élever, pour nous sortir de nos tombeaux. Il a lâché prise. Amen. Le lâcher prise, c'est le mouvement de Pâques parce que nos ancêtres, dans la foi, l'ont vécu. Abraham, qui avait fait ses projets, un papy, Dieu lui dit, allez hop, stop, quitte, va là où je t'envoie. C'est irrationnel. Il part, il reçoit la bénédiction. Moïse, avec tous ses projets dans la cour, hop, va délivrer les enfants d'Israël. Il va, il délivre. Le jeune homme riche dans l'évangile, voyez, ce jeune homme qui avait beaucoup de bien, qui vient voir Jésus, en fait, j'ai aimé les prochains, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, j'ai beaucoup de choses, qu'est-ce que je dois faire pour entrer dans le royaume de Dieu? Il veut capitaliser, nous voulons capitaliser. Nous nous disons parfois, quelle est la vertu qu'il faut ajouter pour que nous soyons parfaits? Et comme nous nous culpabilisons, qu'est-ce qui se passe? Oui, est-ce que j'ai déjà fait ça, j'ai déjà fait ça? Nous disons à Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Parfois, Jésus-Christ nous demande d'enlever un certain nombre de choses qui nous encombrent, de lâcher prise. Marie, la Vierge, la Mère de la Miséricorde. Vous comprenez, votre fille qui a 14, 15 ans, elle vient ce soir après le groupe de prière et vous dit, au fait, j'ai une vision de l'ange et je me rends compte que je suis enceinte alors que je suis fiancée et je vais concevoir et vous, la maman, vous dites, ouais, tout ça c'est super. Elle vient vous dire à vous, son fiancé, que nous nous connaissons, nous nous respectons, mais au fait, je réalise que Dieu est plus grand, je lâche, j'aurai un enfant, cet enfant, il s'appellera Emmanuel. Vous allez lui dire, allez voir un psy, il y a un problème. Mais c'est cela, le lâcher prise. Oui, je suis ta servante, qu'il me soit fait selon ta volonté. Et dans la croix, aujourd'hui, en la regardant, nous pouvons reprendre ces paroles de Marie. Nous pouvons vivre ces lâcher prise dans la confiance. Mais voyez-vous, là aussi avec des jeunes, une fois, nous faisions une adoration en regardant la croix. Le Saint-Sacrement était là. J'avais demandé aux enfants de faire silence, voyez-vous. Comme je vous demandais pendant une minute de faire silence. Il se passe beaucoup de choses dans nos groupes de prière. Vous voyez, quand j'étais prêché dans un groupe de prière en Belgique où il y avait du monde, tout ça, mais dès que je prends une minute de silence, tout le monde me dit, qu'est-ce qu'il va dire encore? Qu'est-ce qu'on va faire? Quelle est la suite? On est préoccupé par ce qui va arriver, tout ça. S'abandonner, c'est parfois se taire au plus profond de nous. Devant la croix, faisons silence. Faisons silence et demandons la grâce profonde du pardon. Nous pouvons fermer les yeux en ces moments. Nous pouvons nous recueillir une minute et regarder en quelques minutes au plus profond de nous ce Christ-là qui est mort et ressuscité, ce qu'il a à nous dire dans le silence de notre cœur. Le cœur à cœur nous rappelle quoi? Que nous pouvons parler à Jésus-Christ comme on parle à un ami. Nous pouvons lui dire nos joies, lui présenter nos faiblesses, parce que la croix est notre unique espérance, parce que la victoire de l'amour sur la haine, Nous pouvons à ce moment accorder pardon à quelqu'un qui nous a blessés. Par sa mort, il a détruit les murs de la séparation. Là, sur la croix, dit Paul, il a tué la haine. Oui, Seigneur, ce soir, nous ne célébrons pas la souffrance ni la mort. Avec ses frères et sœurs ici rassemblés, nous célébrons les signes de l'immense amour de Jésus-Christ et de notre Dieu Père de tous les hommes. Ta croix n'est pas une croix ignominieuse, c'est une croix glorieuse. C'est la croix de l'amour qui ouvre notre cœur à la joie de la résurrection. Oui, Seigneur, tu as dépouillé les dominations et les autorités et les as livrées publiquement au spectacle en triomphant d'elles par la croix. Prends avec toi sur ta croix nos faiblesses, nos difficultés, nos pesanteurs et tout ce qui nous empêche d'être heureux. Nous faisons silence ce soir en nous tournant vers la croix, parce que notre langage, même s'il cherche à comprendre ce qui s'est passé au Golgotha, il doit plutôt nous faire communier à ta souffrance, à ton combat, mais également au combat des milliers et des milliers de personnes qui militent pour l'amour et la justice. Dieu éternel et tout-puissant, en t'invoquant sur la croix, nous voulons que tu fasses vraiment ta demeure en nous ce soir. En versant de ton sang par les sacrifices de ta vie, tu nous as sauvés et tu habites au plus profond de nous ce soir. Ce soir, avec tout ce qui glorifie ta croix, nous croyons que la victoire est déjà certaine. Je termine cette partie en rappelant que nous contemplons la croix pour recevoir la force de lutter. Nous contemplons la croix parce que sur la croix, c'est Dieu que nous prions s'est révélé pour nous comme un Dieu de la vie et non un Dieu de la mort. Amen. Et ce Dieu-là déjà, quand il combattait pour le peuple dans le désert, il l'appelait El Shaddai. Amen. Il l'appelait El Adonai, El Elyon, le Dieu des combats. Avec ce Dieu-là, la victoire est déjà certaine. Et Paul, Saint Paul, qui est communément appelé le cofondateur du christianisme, fait l'expérience de la croix, de la mort et de la résurrection du Christ. C'est pour ça qu'il nous invite à regarder la croix. Au sommet de la croix, il n'y a pas la mort. Je reviens sur mon ami scientifique, il me dit, vous êtes des tarés? La croix, vous la contemplez. La croix nous rappelle nos souffrances, nous rappelle les chemins de calvaire, nous rappelle toutes ces souffrances du Christ. Et le vendredi soir, plutôt, quand j'étais enfant, parfois j'ai pleuré. Il m'était arrivé de pleurer, de me dire, mais pourquoi tous ces malheurs? Pourquoi cet homme, quelqu'un de bien, on dit de lui que partout il passait, il faisait que du bien? Pourquoi ce dénouement triste? Pourquoi ce sang? Pourquoi ces images? Pourquoi cette croix lourde? En grandissant, j'ai compris mon erreur. J'ai continué à laisser Jésus-Christ sur la croix à cause de mes péchés, mais il n'est plus sur la croix. Il a triomphé, il s'est dépouillé, il a pris avec lui toutes les principautés du monde, toutes nos souffrances, il l'a lié au gibet de la croix pour nous accorder la vie par sa résurrection. Amen. Et Saint Paul parle de ce combat dans la vie. Si vous prenez dans Éphésiens, au chapitre 6, il nous rappelle que nous ne luttons pas avec nos propres forces et les forces seulement de ce monde, mais nous luttons, si nous regardons la croix, avec parfois des forces invisibles. À partir du verset 10, « Pour finir, armez-vous de force dans le Seigneur et de sa force toute puissante. Revêtez l'armure de Dieu pour être en état de tenir face aux manœuvres du diable. » Ce n'est pas à l'homme que nous sommes affrontés, mais aux autorités, au pouvoir, aux dominateurs de ce monde des ténèbres, aux esprits du mal qui sont dans les cieux. Saisissez donc l'armure de Dieu, afin qu'en jour mauvais vous puissiez résister et demeurer debout, ayant tout mis en œuvre. Debout donc à la taille, la vérité pour ceinturon, avec la justice pour cuirasse, et comme chaussure aux pieds, l'élan pour annoncer l'évangile de la paix. Prenez surtout le bouclier de la foi, il vous permettra d'éteindre tous les projectiles enflammés du malin. Recevez enfin le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu.
que l'Esprit suscite votre prière sous toutes ses formes, vos requêtes en toutes circonstances. Employez vos veilles à une infatigable intercession pour tous les saints, pour moi aussi, ainsi de suite, dit Saint Paul. Sur la croix, il communique son esprit. Sur la croix, il communique sa force. Peut-être à ce moment du groupe de prière, je vais vous demander, mes frères et sœurs, de vous lever. Nous allons nous lever pour invoquer cet esprit du Père. Le berger l'a dit au début, cet esprit qui planait sur les eaux, cet esprit qui avait propulsé les apôtres, cet esprit, voyez-vous, quand les gens voyaient les apôtres vivre, on disait, ces gens, ils ont vraiment des moteurs dans le ventre. Ces gens, ils ont une force. Et les apôtres, ils ne vivaient pas des choses compliquées. Nous, on est parfois très compliqués. Si vous regardez les actes des apôtres, surtout le chapitre 2, à partir du verset 40, ils se rassemblaient, ils louaient le Seigneur. En levant les mains. Pourquoi nous louons le Seigneur? Parce que la louange, c'est ce qu'on appelle en termes spirituels un décrassage spirituel. La louange libère, voyez-vous, dans le groupe de prière, voyez, il y en a qui arrivent pour lever les mains comme ça. Oh, ils se disent qu'on est en train de me filmer, c'est irrationnel, c'est pas rationnel. Est-ce que nous pouvons lever les mains? Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains! Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. Encore une fois, bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de... Levez les mains! Levez les mains vers le Dieu trois saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. Nous allons invoquer l'Esprit Saint, nous allons rester debout.
Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, Dieu de l'univers, gloire à toi, Alléluia. Esprit Saint, envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. Viens en moi, oh viens me visiter, mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. Gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu remplis l'univers, gloire à toi, Alléluia. Esprit Saint, en toi le nom du Très-Haut Souverain, consolateur. Viens guérir, ô Dieu, tout ce qui est blessé, mon cœur est prêt, mon cœur est prêt. Avec foi, gloire à toi, je veux chanter pour toi, Esprit de feu, Seigneur. Louange à toi, tu remplis l'univers, gloire à toi, Alléluia.
Amen. Amen. Je vous demande de vous asseoir. Je vais terminer cet enseignement avec un dernier point brièvement, en faisant le lien entre la croix et les béatitudes. Je vous ai dit le thème, je l'ai tiré de la cinquième béatitude. Heureux les pauvres de cœur, heureux les cœurs miséricordieux, ils obtiendront miséricorde. Je vais restituer cette béatitude dans son ensemble. Et manifester et révéler comment, à travers la croix, Jésus-Christ a vécu ses béatitudes. Nous les lisons tranquillement dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, le premier au 12e verset. À la vue des foules, Jésus monta dans la montagne et s'assit, et ses disciples s'approchèrent de lui. Et prenant la parole, il les enseignait. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, ils les rassasieront miséricorde. Heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, le royaume des cieux est à eux. Heureux êtes-vous lorsqu'on vous insulte, que l'on vous persécute, et que l'on dit faussement contre vous toutes sortes de mal à cause de moi. Soyez dans la joie et l'allégresse, car votre récompense est grande dans les cieux. C'est ainsi en effet qu'on a persécuté les prophètes qui vous ont précédés. Amen. J'ai répondu à cette deuxième intervention à la question « En quoi la croix est-elle signe de victoire pour nous ?» Voyez mes frères et sœurs, le signe de la croix est aussi paradoxal que le discours des béatitudes, car le Christ va réaliser sur la croix ce qu'il demandait sur une autre montagne, où il donnait son autoportrait. C'est justement au moment où on s'y attend moins, dans la petitesse ou la faiblesse, ou dans les choses les plus méprisables, que va se manifester la résurrection, la vie et la plénitude du Christ au quotidien. Heureux les doux. Sur la croix, le Christ ne manifeste pas d'autre signe que sa douceur. Face à ses ennemis, il ne fait pas descendre une armée comme le voulaient ses apôtres pour les terrasser. Il reste serein et aujourd'hui on dirait il reste zen jusqu'au bout. Sur la croix, le Christ nous rappelle aussi tous ceux qui sont affligés. Il est fouetté, traîné à la mort, ridiculisé. Et combien la croix est signe d'affliction. Heureux ceux qui pleurent car ils seront consolés. Au cœur de nos pleurs, le Christ vient mettre sa consolation et sa force. Heureux les assoiffés, les affamés. Sur cette croix, il souffre. Le Christ a effectivement faim et soif de ton amour. Oui, il veut les remplir et les combler d'une façon inalternable de son salut et de sa vie qui est devenue source. Heureux les miséricordieux, heureux les cœurs purs, heureux les artisans de paix. La croix, mes frères et sœurs, est devenue effectivement source de grâce et de paix, source de miséricorde pour nous, comme je viens de le souligner. Et il n'est pas étonnant que l'évangéliste Saint Jean, en voyant les côtés transpercés, en voyant couler l'eau et le sang, ait compris qu'il s'agissait là de la source ces jours-là. Heureux les persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux quand on vous insultera, quand on vous persécutera, quand on dira faussement contre vous toutes sortes d'infamies, soyez dans la joie et dans l'allégresse. Je termine par ces paroles. Pourquoi? Vous voyez, la croix, nous pouvons la vivre au quotidien, mais nous ne devons pas avoir honte de vivre cette croix comme notre appartenance à cette grande famille chrétienne. Amen. Je vois mes jeunes à l'aumônerie, quand ils viennent à l'aumônerie, leurs copains, parfois, se moquent d'eux. Il y en a que j'accompagne, qui se préparent à la confirmation. Ils veulent pas que j'en parle trop, parce que sinon, ces copains les traiteraient de ringards. Ils disent, c'est ringard aujourd'hui. Si vous venez à ces groupes de prière, si vous y croyez comme nous y croyons, si Jésus vous comble de grâce en sortant, sachez que vous serez libre parce que vous êtes libéré, mais vous pouvez vivre des combats au quotidien. Amen. Et le Seigneur nous demande par sa croix la persévérance. Il nous demande et nous invite à l'espérance. Il nous demande d'être joyeux, de reconnaître que sur la croix, il a tué la haine, qu'il a pris sur lui nos faiblesses et il nous communique sa force. Amen. Si je dois terminer sur les béatitudes, voyez-vous, les béatitudes et les portraits, l'autoportrait de Jésus-Christ, pourquoi? Parce qu'il me semble, quand nous venons ici, et je le dis à mes paroissiens, c'est comme si nous suivons aussi les apôtres pour aller écouter Jésus-Christ qui est l'homme de béatitude. 8 fois sur la montagne, heureux, 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 soyez heureux. C'est cela le christianisme, mes frères et sœurs. Qui est ce Dieu-là qui voudrait que nous passions toute notre vie sur terre à souffrir pour être heureux là-haut? Ça ne tient pas la route, cette histoire. Vous n'allez pas convaincre les gens en leur disant « Soyez des malheureux, pleurez ici, souffrez, vous serez heureux seulement au paradis. » Il nous demande d'être heureux, c'est le premier mot qu'il prononce. « Heureux, dit-il, aux apôtres. Comme il te dit, ma sœur, il te dit, mon frère, heureux, sois heureux, parce qu'il t'appelle au bonheur. Amen. Sur la montagne, Jésus-Christ ne fait pas la morale, il n'explique pas la loi, il dit pas des choses compliquées. Le christianisme, ce n'est pas une morale. Le christianisme, s'il y a la morale là-dedans, elle est une morale qu'on appelle une morale révélée. C'est-à-dire, Dieu crée tout ce qui est bon, il donne la loi pour les respecter comme garde-fous, mais il ne nous juge pas en fonction de la loi. La loi ne résout pas tous nos problèmes du christianisme. Sa justice à lui, c'est de nous ajuster à sa volonté pour être heureux. Amen. Heureux, il dit pas des lois rigides. Le catholicisme, ce n'est pas un ensemble de lois rigides à respecter ou à ne pas respecter. Le catholicisme et le christianisme, c'est la rencontre d'abord avec ce Dieu qui est mort et ressuscité, qui a versé de son sang, et si nous y croyons, nous deviendrons heureux. Amen. Tant que nous n'avons pas encore fait l'expérience d'une vraie rencontre avec le Seigneur, tout ce que j'ai dit ici apparaîtra comme des discours. Il faut l'avoir accepté. Mais regardez les béatitudes. Si j'avais beaucoup de temps, je les commenterais toute la nuit. Je vais les résumer. Heureux, heureux, heureux. Chacun de nous peut se retrouver dans une des béatitudes. 8 clés possibles pour être heureux. La société nous propose aussi des voies du bonheur. Jésus-Christ propose aussi sa voie. Je suis passé dans les supermarchés l'autre jour. Vous voyez, on a mis déjà Noël, il y a l'agitation, il y a la tension, les parents, ça. Tu croises un paroissien avec ses enfants, tu as l'impression que c'est un zombie qui avance. Et on se colle, je dis madame, tout ça. Ah, vous savez, les cadeaux, les trucs, je dis, oh là, on se calme, on se calme. Et puis je vois une étiquette, une annonce de chocolat pour rendre heureux. Je me suis dit, ben c'est pas mal ça, les chocolats pour rendre heureux. Et puis je connais des couples qui sont en difficulté. Je me suis dit, et si j'ai l'air prescrivé ces chocolats? Alors j'en parle à un ami prêtre, il me dit, il faut aller voir un psy, il y a un problème dans ta tête. Oui, je l'ai dit avec humour, on nous propose des voies de bonheur, Jésus-Christ nous propose aussi les voies de bonheur. Seulement les voies du Christ sont assez exigeantes. Regardez bien les béatitudes, il faut une vraie interprétation des béatitudes. Ce que le Christ appelle aujourd'hui bienheureux, c'est ceux qui, à première vue dans notre société, ne sont pas du tout heureux. Celui qui pleure, celui qui est affligé, un cœur pauvre. Comment comprendre son message du bonheur et cette image que nous avons du bonheur dans notre société? Il faut comprendre les béatitudes en cherchant son interprétation très loin. Qu'est-ce que le Christ veut nous dire en gros? Il veut nous saisir à partir de nos points de faiblesse. Il veut te dire, mon frère et ma sœur, aujourd'hui, dans ces groupes de prière, que tu croyais que le bonheur n'était pas fait pour toi, parce que tu continues à pleurer, à ressasser ton histoire, à te culpabiliser. Tu croyais que tu pouvais pas emprunter ce chemin de bonheur. Moi, ton Dieu, je te dis qu'aujourd'hui, tu peux être heureux. Amen. Parce que dans ta faiblesse, je vais mettre ma force et te regarder avec bienveillance et miséricorde comme j'ai regardé Pierre. Dans ton péché qui te culpabilise, je vais mettre mon germe de pardon parce que j'ai versé de mon sang sur la croix en rappelant que là où le péché semble monter, la grâce de Dieu surabonde. Amen. Parce que dans tes pleurs qui ne sèchent pas, voyez, ces gens qui ont toujours pleuré dans leur vie, et qui se demande où est-il ce Dieu que nous prions dans tes pleurs aujourd'hui, le Seigneur veut mettre son germe de bonheur. Amen.